什么？
这个是徐阳老师。
啥？
Et qui reprend l'ensemble des communications qui ont été faites à la session d'automne de Metsubip à La Réunion en 2002. Nos camarades de La Réunion ont fait un gros effort dans ce sens. Et il y a un certain nombre de choses. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est ces contenus là-dedans. Pour ceux que ça intéresse, c'est metsubip.com. Il y a tout sur le site internet. Il n'y a pas les articles parce qu'on vous demande d'acheter d'essayer la cotisation ou d'acheter la revue pour avoir droit aux articles. Mais il y a les articles. Et ça, c'est normal, c'est la République. Donc, je vais vous raconter un peu ce que j'ai dit à ce moment-là sur la physiopathologie des accidents de décompression de l'oreille interne. Et la pédagogie, c'est la répétition, n'est-ce pas? Alors, je vais rajouter une couche pour voir si vous avez bien compris, en vous rappelant sur un autre schéma que l'oreille interne se subdivise en vestibule, qui est l'organe de l'équilibration. Et là, parce qu'il y a des non-médecins ici, hein, si j'ai bien compris, donc les médecins, pour eux, ça relève de l'évidence, mais les non-médecins, peut-être un peu moins. Et la cochlée, c'est l'organe de l'audition. Les deux fonctions sont séparées, les capteurs sont différents, mais sont réunis au sein d'un même organe, qu'on appelle l'oreille interne, et qui constitue, la somme des deux, constitue le labyrinthe. Les accidents labyrinthiques, donc, se manifestent en raison de ces deux capteurs, selon deux formes principales, qui sont les accidents vestibulaires, lorsque c'est le vestibule qui est atteint, et les accidents cochléaires, lorsque la cochlée est atteinte. Les accidents vestibulaires sont des accidents donc, qui se manifestent par des troubles de l'équilibre, les accidents cochléaires se manifestent par les troubles de l'audition. Parfois, les deux sont associés, il y a des troubles de l'audition et des troubles de l'équilibration, et on parle d'accident cochléo-vestibulaire. L'incidence de ces accidents varie en fonction des séries. Parmi tous les accidents de décompression, Volkeviez en 87-88, sur 259 accidents traités à 10, rapporté 20 ou 21% d'accidents labyrinthiques, toutes formes confondues, qu'elles soient cochléaires ou vestibulaires ou cochléo-vestibulaires. En 98, Kiruel dans Patoulon, sur 96 accidents, rapporté 31 accidents, soit 32% à peu près, d'accidents labyrinthiques. Dans la Marine nationale, sur de 80 à 99, c'est-à-dire presque 20 ans, sur 114 accidents, il y avait à peu près 15% d'accidents labyrinthiques. Et une série de l'hôpital Sainte-Anne, publiée en 99, montrait 34 accidents sur 100, ce qui revient à dire qu'il y a 34 à 35% d'accidents labyrinthiques. Donc il semble y avoir une légère augmentation dans le temps de ces manifestations, mais sans qu'on puisse l'affirmer, ça n'est pas significatif. Par contre, ce qui est significatif, c'est la découverte, donc dans les années récentes, puisque les techniques non invasives ne sont disponibles que depuis moins de 10 ans, et en particulier l'échographie Doppler, par Doppler vasculaire et le Doppler transcrânien, beaucoup plus facile à faire que d'autres examens. Il suffit de mettre une sonde à peu près au niveau de la fosse temporale sur le trajet de l'artère sylvienne. Et donc on s'aperçoit que dans les accidents labyrinthiques, 80%, donc là c'était sur une série de 34, mais ça a été confirmé dans un article que les mêmes auteurs, c'est-à-dire Pierre Louge et Emmanuel Tanté, ont publié dans Critical Care Medicine l'année dernière, qui est paru l'année dernière dans Critical Care Medicine. sur 101 accidents de décompression. La proportion dans les accidents labyrinthiques est de 80% de présence d'une communication interauriculaire droite-gauche, c'est-à-dire la persistance d'un champ d'un foramen ovale terminal. Ces sujets-là, ces malades, vus dans cette série, sont pour 99% des cas, ou même 100%, des plongées à l'air. Ce n'est pas de la plongée pourtant industrielle, telle que vous a raconté Jean-Paul Dépuchon, ce n'est pas du clinique, tout ça a commencé dans les années, 90, le limitrophe, le clinique, etc., c'était pas très attendu, donc il s'agit de plonger à l'air. Et en plongée à l'air, 8 fois sur 10, on trouve un champ droite-gauche. Donc, on en conclut que 9 fois sur 10, l'origine de l'accident est embolique. Soit par un froid, ou soit par un champ pulmonaire. Pour Michel Liu, il y en a, ça arrive une fois sur 4. Dans une série qu'il avait publiée, pareil dans le. Donc, il reste 20% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Où les bulles peuvent être autochtones, ou il pourrait s'agir d'une ischémie veineuse rétrograde comme dans les accidents neurologiques classiques. Donc l'origine embolique n'explique pas tout, mais elle en explique une bonne partie. Donc, deuxième couche sur la vascularisation de l'oreille interne, j'espère que vous viendrez après. C'est pas les mêmes images. Donc l'artère vertébrale, les artères vertébrales droite et gauche naissent pour la droite du tronc artériel brachiocéphalique et pour la gauche de la crosse de l'aorte, si mes souvenirs sont comme ça. Donc le chemin est direct, il vient directement, pratiquement de l'aorte. Les deux artères vertébrales se rejoignent pour former le tronc basilaire, et tout à fait en bas du tronc basilaire naissent soit une artère commune qui les divise en artères labyrinthiques et artères cérébelleuses antéro-inférieures, soit deux artères qui naissent séparément au niveau du tronc basilaire. Il existe de grandes variations anatomiques dans ces réseaux artériels d'un sujet à l'autre, mais ça revient strictement au même. Et donc vous reconnaissez le schéma moins bien scanné, quand même. Mais c'est exactement le même schéma. Donc on voit là la crosse de l'aorte, là le tronc artériel par le tronc céphalique, l'artère vertébrale, le tronc basilaire et la naissance ici de l'artère labyrinthique qui se subdivise en une artère cochléaire, qui vient irriguer la cochlée par l'intermédiaire d'un arc que l'on appelle l'artère radiale interne, qui donne ensuite des petites branches à tous les niveaux. Une artère vestibulaire antérieure qui va irriguer le vestibule antérieur, et l'autre est l'artère cochléaire, donne naissance à l'artère vestibulaire postérieure. Tout ça en terminale. Si on fait un dessin, qui est peut-être plus clair dans ce sens, on retrouve les artères vertébrales, le tronc basilaire, l'artère labyrinthique, avec ici donc une artère commune entre l'artère labyrinthique et l'artère cérébelleuse moyenne, l'artère labyrinthique qui donne naissance à l'artère cochléaire qui s'enroule sur la cochlée, c'est dans la branche la cochlée s'enroule et qui donne également la branche vestibulaire postérieure et l'artère vestibulaire antérieure qui irrigue préférentiellement l'utricule. Et ce qui est quand même remarquable, c'est le drainage veineux de l'oreille. Il y a deux veines qui ramènent le sang une fois qu'il est arrivé à l'oreille, qu'il a fait son office de transporteur, il faut bien l'évacuer. Il y a deux veines qui ramènent le sang vers le cœur Et une veine, c'est la veine de la pubis vestibulaire, qui draine toutes les zones de l'oreille interne qui ne sont pas sensorielles, c'est-à-dire où il n'y a pas de cellules sensibles, de cellules sensorielles, et toutes les cellules sensorielles, à la fois de la cochlée et du vestibule, sont drainées par une seule et même veine, c'est la veine de la pubis cochléaire. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va faire un peu de clinique quand même. Quand c'est une étiologie embolique, on peut retrouver parfois des signes associés qui sont, enfin parfois même souvent, qui sont des signes ischémiques du tissu nerveux parce que s'il y a beaucoup de bulles, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une seule micro-bulle. Quand on voit des accidents de décompression, quand on voit des échantillons de sang qui sont des comprimés dans lesquels il y a des bulles, c'est c'est une mousse. Ce n'est pas une microbulle qui va se loger à un endroit donné. Ce sont des myriades de microbulles qui se promènent dans la circulation. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les cellules ou que les artères terminales de la cochlée qui reçoivent ces bulles. Elles se répartissent dans l'ensemble de la circulation céphalique, puisqu'elles arrivent par le tronc basilaire. Donc, et puis qu'elles arrivent également par la carotide. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que dans le tronc basilaire. Il peut y en avoir en avant aussi. Donc, par le polygone de Willis, l'ensemble de l'encéphale peut recevoir ces bulles. Et donc, souvent, on observe des signes déficitaires cérébraux associé au syndrome cochléo-vestibulaire et on peut observer des manifestations d'une ischémie du territoire vertébro-basilaire. Alors, ça peut être un syndrome vertigineux central, c'est-à-dire quand c'est le tissu nerveux lui-même qui est atteint. Et à ce moment-là, le signe, alors le diagnostic n'est pas facile à faire, mais le signe différentiel, c'est le nystagmus qui persiste à la fixation du regard. Le nystagmus périphérique, classiquement, il est cinétique
pour les gens. Donc,
quand on suit un doigt,
comme ça, comme c'est le moment où les médicales peuvent le faire, l'œil suit de façon linéaire. Okay. Et quand en fait, quand il y a un nystagmus, c'est-à-dire à des positions en haut, en bas, sur le côté, etc., l'œil bat, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se fixer, là on voit que l'œil fait des battements, ce qu'on appelle un nystagmus.
Hein. C'est des saccades oculaires.
C'est pour ça que le médecin vive le visite médical, il va vous faire sous le doigt pour voir si vous n'avez pas des séquelles et si vous n'avez pas ce signe-là.
Voilà. Alors classiquement, sur le syndrome vertigineux périphérique, lorsque c'est le vestibule qui est atteint, le nystagmus survient au mouvement de l'œil, lorsqu'on peut suivre le regard, et lorsque c'est au niveau cérébral que le déficit siège, le nystagmus persiste à la fixation du regard. C'est-à-dire que le regard fait des saccades. Et ce sont ces saccades, d'ailleurs, qui donnent des impressions de vertige. Un sujet qui a les yeux qui battent, comme ça, ce qu'il ressent, lui, c'est le tournoiement de l'environnement. On peut observer dans les ischémies du territoire vertébro-basilaire, ce sont des pathologies qui existent en pathologie circulatoire générale. Dans les ischémies du territoire vertébro-basilaire, on peut observer également des syndromes de Wallenberg. Je n'avais pas vu décrit dans les accidents de décompression qui associent un grand vertige, une hypoesthésie faciale. Pourquoi ? Parce que les noyaux du nerf facial sont très proches, sont dans la même région, un syndrome de Claude Bernard Holter, pourquoi j'ai fait Holter dysmétrie au mouvement des membres supérieurs et une anesthésie thermoalgésique de la face qui va venir avec une hypoesthésie. Cette anesthésie, on peut observer également des infarctus latéraux protubérantiels. Mais bon, là, on entre dans la médecine. Hein, les infarctus, les pellicules dans toutes les régions du système nerveux central qui se trouvent irriguées par ce système vertébro-basilaire peuvent
chacune pour ce qui les concerne, manifester des signes déficitaires lorsqu'elles sentent le siège d'une ischémie, c'est-à-dire d'un arrêt circulatoire. Et que c'est la symptomatologie correspond à la zone du tissu nerveux qui est atteinte.
Le principe
s'associe, donc qui ont des signes différents des cytokines vasculaires, qui sont associés aux
cytokines. Quand les bulles vont se localiser, suivant là où elles se localisent, on voit ce qu'elles ont détruit parce qu'il se passe en périphérie. Donc soit il y a des bulles qui sont les zones du cerveau qui ne parlent pas, parce qu'on peut remettre aussi qu'ils ne parlent pas, hein, et c'est peut-être celle qu'on découvre quand on fait tardivement des scanners et qu'on voit que les plongeurs semblent bien avoir des petits signes d'infarctus plus que les non-plongeurs, ou alors après, ça se signe, ça se met en périphérie, ça se met au niveau des noyaux, ça se met, et c'est ce qui fait décrire tous ces tableaux. Hein. C'est pour ça que ça a des noms, mais peu importe, c'est le principe d'avoir une bulle, des bulles, qui sont les pour nous le labyrinthe qui nous intéresse, et quelque part ailleurs. C'est ça tout ces sens.
Ce malade a fait un accident de décompression, il a, vous voyez, là, il y a toute une partie du cervelet qui est blanche, c'est-à-dire que ça ne circule plus. Et ce malade avait un accident cochléo-vestibulaire, en plus de son syndrome cérébral. Alors, il ne tenait pas debout, davantage par l'atteinte de son cervelet que par l'atteinte de son oreille interne. Alors, on a cherché depuis période, il est en reculé, c'est la préhistoire, comme disait Alain tout à l'heure. Puis les années 70, on a cherché à comprendre ce qui se passait dans les accidents cochléo-vestibulaires, de savoir quelle était la participation de l'accident embolique et de la génération de bulles locales. Donc là, on trouve dans la littérature deux études essentiellement. Une étude française de François-Xavier Long qui était faite à Marseille chez Apex en 1976, où il a fait plonger des cobayes à l'hélium, c'est un hélium oxygène, à 200 mètres pendant 20 minutes. C'est important, ça peut expliquer un certain nombre de choses. C'est pas de la plongée à l'air. De toute façon, c'est le petit animal, la plongée à l'air, ça donne pas d'accident de l'oreille interne. Il n'y a que l'homme qui fait des accidents de l'oreille interne, à l'air. Même à l'air ou pas, oui. Les conditions normales, même chez le gros animal, chez le porc, chez le cochon, on ne sait pas leur donner un accident de l'oreille. Une décompression de 176 minutes a payé au 2, 210 mg, c'est-à-dire en hormones. Et puis une deuxième étude, un peu plus contemporaine, qui a débuté suite à ça, 217, mais qui a duré 7 ans, d'un Canadien, Landolt, qui a travaillé sur le singe écureuil, on ne sait pas quelle espèce, je ne me souviens plus, c'est un Siliri, je crois, qui a fait plonger ce singe à l'hélium à 274 mètres, mais pendant une seule minute sur le fond, avec une compression de 9 minutes et une décompression rapide à 18 mètres par minute. Alors, ses oreilles n'étaient pas assez liquides, ses compartiments n'étaient certainement pas saturés à 274 mètres d'hélium, mais comme il a passé 10 minutes en plongée, avec le temps de compression compris, vous pensez qu'il a été bien saturé aux alentours d'une centaine de mètres, quoi, à peu près. Surtout que l'hélium, ça diffuse rapidement. Sa décompression était à 18 mètres par minute, dans le même mélange, avec une PO2 quand même un peu élevée, 0,51. Et jusqu'à 61 mètres, on a dépassé un palier de 4 minutes aussi.
Je ne dis pas combien de temps il a mis pour mettre au point ce modèle.
Donc ça, c'est chez le cobaye, les cobayes d'Apex. C'est une cochlée, et on voit donc un gonflement du canal cochléaire avec une rupture de la membrane textoriale là aussi, mais là aussi doucement. Est-ce que c'est pas un artefact lié à la préparation microscopique qui fait que sous la lame du microtome, la membrane qui est toute petite, très fine, a été déplacée? C'est possible. Toujours est-il que ce gonflement, cet œdème de la rampe de fait du canal cochléaire et caractéristiques. Les hommes, on ne peut pas voir si c'est gonflé parce que de toute façon, la paroi est osseuse. Hein. Donc, dans la rampe vestibulaire comme la rampe tympanique, il n'y a pas de
Par rapport à tout à l'heure, ce que nous a montré Arnaud, vous vous souvenez, ça c'était de la périlin, ça c'est de la périlin, ça c'est de l'indolin. On a dit que c'est celle-là qui bougeait pour venir, les cellules qui sont là, taper sur cette membrane qui était là. On se retrouve dans le même endroit. Celle-ci, chez Arnaud, on la voit mieux, elle était tout droit.
On la voit mieux, la petite membrane qui est en partie de moi.
Voilà, ici, voilà, vous voyez, à ça, ce sont les différentes spires de la cochlée qui est enroulée sur elle-même.
D'accord.
Comme l'escargot 1, ça s'appelle aussi le colimaçon. Comme une escalier. Chez l'andolte, enfin, chez le singe écureuil de l'andolte, on a là et là une coupe de l'utricule avec la macule de l'utricule. Donc la macule de l'utricule, c'est un capteur hein, avec des cellules ciliées. La crête ampoulaire également d'un canal semi-circulaire qui s'abouche dedans, n'est-ce pas hein, c'est ça et qui porte des petits cils au sommet, et ces petits cils sont déplacés par les mouvements du liquide lors des rotations de la tête.
Ça, c'est la partie équilibration.
La partie équilibration. Et les capteurs sont très proches l'un de l'autre. Hein. Ce sont des cellules nerveuses qui portent des cils, et ces cils sont déplacés soit au niveau de la macule par des petites concrétions de calcium que l'on appelle les otolithes, soit par les mouvements de liquide endolymphatique qui déplace les cils de la crête ampoulaire. Donc ça, c'est un utricule normal du singe écureuil. Et nous avons ici l'utricule abîmé après accident de compression où on voit une hémorragie, tout ça c'est des globules rouges. Là on voit l'abouchement du canal semi-circulaire. On voit une hémorragie, on voit une rupture de la coiffe de la crête ampoulaire et une disparition, un arrachement des cils de cette crête ampoulaire. Et cette hémorragie existe dans les cellules et également dans la paroi au niveau des cellules nerveuses au niveau du capteur lui-même. Chez le singe écureuil toujours de l'andole, on observe dans la rampe tympanique une hémorragie. Donc pour qu'il y ait hémorragie, hein, il faut qu'il se soit passé quelque chose de mécanique hein, sur les vaisseaux sanguins. Il y a une rupture de la paroi des capillaires. Forcément, ça ne se fait pas. Le singe écureuil n'est pas spontanément hémophile. Hein. Donc il y a eu une rupture de la paroi capillaire provoquée très probablement par des bulles. On ne voit pas les bulles parce que de toute façon, dans les préparation histologique, quand on fait des coupes qui font 4 microns d'épaisseur à peu près, la bulle disparaît lors de la manipulation de l'échantillon. Et on voit dans cette spire, au niveau du canal cochléaire, également des hémorragies, RBC c'est le red blood cell, parce que ça un canadien anglophone, et des globules rouges, et même l'organe de Corti, il paraît quand même un petit peu abîmé, elles sont maigrichonnes, hein, ces cellules. Et la membrane sectorielle, elle est pas jaugeuse. Hein. Et également, au niveau de la scie vasculaire, qui est la partie la plus richement vascularisée de l'oreille externe, une hémorragie. Donc, pour l'andolte, dans les conclusions qu'il donne de cette équipe, il y a la thèse, évidemment, hein, les symptômes vestibulaires purs sont liés à des lésions périphériques, donc de l'oreille interne. Il observe des exudats protéiques dans les liquides, des hémorragies, Des fractures, qu'on n'a pas vu ici, mais qu'on voit bien chez APEX, des fractures des parois et des différents, les différents organites de l'oreille interne. On observe même des fractures des canaux semi-circulaires. Donc pour casser un canal semi-circulaire, il faut qu'il y ait une augmentation de pression importante dedans. Donc il n'y a que des bulles, a priori, qui soient capables de faire ça. Et d'importantes lésions hémorragiques de la scie vasculaire. Alors, bon, on sait que les bulles jouent un rôle, mais des bulles à l'intérieur, ça ne laisse pas l'hypothèse sur la présence des bulles dans le secteur vasculaire, c'est-à-dire des bulles emboliques ou de bulles qui naissent directement dans l'endolymphe. Et les deux sont possibles, rien n'interdit d'y penser. En particulier, les bulles vasculaires, où est-ce qu'elles peuvent se produire? Eh bien, dans les réseaux microcirculatoires, qui sont des pièges et qui sont des organes d'échange également avec les compartiments, et en particulier la strie vasculaire, qui est vous avez vu là, ces images tout à l'heure de ce réseau vasculaire extrêmement dense, extrêmement serré, cette micro-circulation. La strie vasculaire en particulier, comme ce que j'ai pu en lire, en n'étant pas ORL de formation, j'ai plongé dans l'encyclopédie médico-chirurgicale, et certains auteurs prétendent que la strie vasculaire, c'est le lieu où de la périlymphe est réabsorbée et transformée en endolymphe. L'endolymphe, donc qui est là-dedans, vient de la périlymphe qui est modifiée et en particulier réenrichie en potassium et appauvrie en sodium. Et puis il y a quelque chose aussi au niveau des protéines, la composition en protéines qui n'est pas exactement là. Donc cette strie vasculaire est un échangeur entre l'endolymphe et la périlymphe et est un réseau microcirculatoire extrêmement dense. Mais il y a d'autres réseaux microcirculatoires. Il y a le réseau microcirculatoire de la membrane basilaire qui vient irriguer l'organe de Corti, et il y a un réseau également à l'intérieur du ligament spiral. Le ligament spiral, c'est la partie centrale de la cochlée autour duquel s'accrochent les différentes spires qui sont, donc c'est l'axe du colimaçon. Donc tous ces réseaux microcirculatoires constituent des pièges à bulles et bulles. Donc où pourraient naître ces bulles? Eh bien, si elles ne sont pas dans le réseau microcirculatoire, elles pourraient être dans les liquides labyrinthiques, et en particulier les destructions mécaniques que l'on voit, photographiées par l'onde ou par l'endolte dans les canaux semi-circulaires, pourraient être compatibles avec l'apparition de bulles dans le liquide, dans l'endolte. Mais il pourrait y avoir également des bulles dans le tissu nerveux. Alors là, c'est au niveau beaucoup plus central, hein, puisque ça a été décrit par Francis. Bon, une discussion qui permet entre spécialistes qui s'opposent et qui disent que ce peut être des artefacts de préparation du tissu nerveux également sous le microscope. Mais le plus souvent, les formes que l'on